Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. La France réclame des sanctions très fermes de l'ONU et de l'Union européenne après le nouvel essai nucléaire de Pyongyang la nuit dernière, sixième essai qui inquiète particulièrement en Asie-Pacifique. Le Japon s'interroge de nouveau sur sa sécurité, va nous dire Frédéric Charles, et d'autant plus que l'armement nucléaire de la Corée du Nord se précise. Analyse technique à suivre avec le spécialiste de la péninsule d'Orient, Malevitch. En France, alors que les ordonnances de la réforme du Code du travail ont été fraîchement accueillies par les syndicats cette semaine, le gouvernement cherche à désamorcer la fronde sociale. Plusieurs interviews en parallèle ce matin dans la presse. Précision à suivre de Laure Verneau dans un instant. Et puis ce serait une première pour les contrôles de vitesse. Le ministre de l'Intérieur envisage d'externaliser la gestion des radars. Réaction hostile des associations d'automobilistes, va nous dire Benjamin Mathieu. Enfin à 12h40, ça sera le retour de la face cachée du globe avec cette semaine Éric Biégala. C'est un nouveau défi qui s'annonce pour la communauté internationale. En dépit des sanctions de l'ONU, la Corée du Nord a réalisé la nuit dernière son sixième essai nucléaire, une bombe à hydrogène d'une puissance sans précédent et dont le test a été qualifié de réussite parfaite par le régime de Pyongyang. L'Élysée condamne avec la plus grande vigueur ce test et appelle l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations unies à réagir rapidement. Inquiétude également en Asie-Pacifique. La Corée du Sud relève son niveau d'alerte et convoque en urgence son Conseil de sécurité nationale, tandis que le Japon, déjà visé par un tir de missile en début de semaine, est en pleine interrogation sur ses leviers de protection. Frédéric Charles.
Les Japonais disent, après ce sixième essai nucléaire nord-coréen, est-ce que les États-Unis nous protégeront le jour où la Corée du Nord tirera un de ses missiles armés d'une ogive nucléaire? Le gouvernement japonais leur répond, nous venons d'obtenir confirmation de la part des États-Unis que nous restons placés sous leur parapluie nucléaire. Les Japonais disent encore, si les États-Unis nous protègent, la Corée du Nord sera tentée, en guise de représailles, de tirer un missile balistique doté d'une arme atomique à hydrogène miniaturisée sur une ville américaine. Les États-Unis préféreront alors ne pas protéger le Japon pour éviter de subir à leur tour une attaque nord-coréenne. Les Japonais se posent toutes ces questions aujourd'hui et les doutes qu'ils éprouvent profitent à la Corée du Nord, car celle-ci cherche à diviser les alliés des États-Unis dans la région. Compte tenu des contraintes de sa constitution pacifiste, le Japon manque de leviers diplomatiques et militaires pour réagir face à la Corée du Nord. La diplomatie japonaise se fait encore pour beaucoup à Washington.
Correspondance à Tokyo de Frédéric Charles. J'ajoute que Pékin, allié de Pyongyang, demande à la Corée du Nord de cesser d'aggraver la situation avec des gestes qui ne servent pas ses intérêts. Et puis l'Agence internationale de l'énergie atomique a également réagi. Selon l'AIEA, cet essai a été mené au mépris complet des demandes répétées de la communauté internationale et c'est extrêmement regrettable. Cette vive inquiétude tranche avec les réactions de 2006. À l'époque, la menace nucléaire du régime ermite de Pyongyang n'était pas vraiment pris au sérieux par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, le régime de Kim Jong-un représente une menace réelle, estime Dorian Malovitch. Il est le chef du service Asie au quotidien La Croix et auteur de La Corée du Nord en 100 questions.
Quand vous imaginez que le premier test en 2006 était de 1 kilotonne et que là on est à plus de 100 kilotonnes, on voit qu'en une dizaine d'années, la Corée du Nord a fait des progrès considérables et là aujourd'hui la communauté internationale fait face à une réalité qu'il va falloir intégrer dans les nouveaux logiciels. Pendant des années, beaucoup d'experts ont sous-estimé la capacité nucléaire nord-coréenne en disant que c'était du bluff, que c'était des rideaux de fumée et que tout ça n'était qu'apparence. Maintenant, force est de constater qu'ils ont au moins, selon les experts, 20 à 30 têtes nucléaires. Ils ont le matériel fissible pour en fabriquer. Et là, le danger, finalement, c'est de savoir s'ils peuvent miniaturiser ce nucléaire et le mettre sur une tête nucléaire, sur un missile balistique intercontinental. On est face à quelque chose aujourd'hui qui est très difficilement maîtrisable. Il est très compliqué d'arrêter le processus nucléaire nord-coréen.
Des propos recueillis par Philippe Perriou. En France, le gouvernement est à la manœuvre pour désamorcer la fronde sociale qui s'amorce dès le 12 septembre prochain. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, répond aux lecteurs du journal Le Parisien de ce matin. Le gouvernement ne cédera rien en cas de mobilisation forte dans la rue, déclare-t-elle, en rappelant que la réforme du code de travail a été clairement annoncée pendant la campagne présidentielle. Et puis en parallèle, le Premier ministre, Édouard Philippe, affiche ses ambitions réformatrices dans le journal du dimanche. Bonjour Laure Verneau.
Bonjour.
Pour Édouard Philippe, c'est comme si tout était déjà réglé.
Oui, c'est comme si le Premier ministre prenait les devants. Dans les pages du journal du dimanche, il annonce son futur plan de bataille bien rodé. D'abord la politique du logement, puis la formation professionnelle et enfin l'assurance chômage. Quelques annonces phares par exemple, 15 milliards d'euros investis sur 5 ans pour la formation professionnelle et surtout l'apprentissage, ou encore la promesse d'étendre l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires. Le gouvernement semble donc déjà avoir tourné la page loi travail et se projette sur le reste du quinquennat. Pourtant, c'est dans moins de 15 jours que les ordonnances doivent être signées par le président puis ratifiées par le Parlement. Mais voilà, personne ne doute à ce stade qu'elles le seront. Symboliquement, la loi travail représente le premier palier franchi, en tout cas l'étape sur laquelle Édouard Philippe s'appuie pour impulser ses futures grandes réformes. Alors autant qu'elle fasse le moins de bruit possible. Et sans s'étendre sur ce qui s'est tramé tout l'été au ministère du Travail, le Premier ministre acte finalement la loi travail comme quelque chose, comme un événement de déjà lointain dans le continuum politique. Il faut dire que pour l'instant, son pari pour déminer la fronde sociale est réussi. Seule la CGT et Sud iront battre le pavé le 12 septembre pour protester contre la réforme. La méthode de concertation millimétrée et parcellaire a été abondamment critiquée par les partenaires sociaux, mais ces partenaires sociaux sont divisés et n'ont toujours pas trouvé de consensus en interne. Force ouvrière, en la personne de Jean-Claude Mailly, n'a pas appelé à manifester, tout comme Laurent Berger de la CFDT, qui, s'il a eu des mots plus durs à l'endroit du gouvernement, et rester silencieux sur la journée d'action. Il faudra donc attendre le 12 et le 23 septembre pour voir si réellement la méthode de déminage du gouvernement Philippe va porter ses fruits, ou en tout cas dans quelle mesure les divisions des syndicats vont lui profiter.
Merci Laure Verneau pour votre analyse. Les contrôles de vitesse vont-ils être bientôt externalisés vers des sociétés privées? C'est l'ambition affichée en tout cas par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans le journal Le Progrès. Cela permettrait selon lui d'affecter gendarmes et policiers à leur mission prioritaire d'enquête. Benjamin Mathieu, les associations d'automobilistes voient cette nouvelle d'un très mauvais œil.
L'automobiliste qui dépasse les limitations de vitesse a du souci à se faire. Si ce projet lancé par le précédent gouvernement est repris à son compte par Gérard Collomb et mis en œuvre, voilà ce que vous rencontrerez sur les routes. Une sorte de machine à flash sans état d'âme pour Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes.
Ce sont des radars confiés à des sociétés privées dans des voitures, ce qu'on appelle les radars mobiles. Des voitures non identifiées, donc ces voitures vont circuler sur les routes. Si on confie ça à des sociétés privées, il y a une capacité de flasher à peu près 2 fois la minute. Si elles remplissent leur effet, on pourrait atteindre des sommes de plus de 2 milliards de collectes chaque année, alors qu'on est déjà près du milliard.
De 1 à 2 milliards d'euros d'argent récolté, on comprend tout l'intérêt du gouvernement pour cette idée, un rendement ultra efficace. Gérard Collomb précise que ces sociétés seraient payées au forfait et non au nombre de PV. Elles libéreraient en tout cas 400 fonctionnaires dispensés de flash et dont les lumières pourraient être utilisées sur d'autres missions.
Explication signée Benjamin Mathieu. Ce sera le seul rassemblement de grands voiliers cette année en France. Il est organisé dans le port normand du Havre qui fête ses 500 ans. L'événement marque la dernière étape de la course des grands voiliers destinée à former des jeunes marins à la navigation. Ce midi, l'heure est à la parade dans le port, de quoi éblouir la foule venue nombreuse. C'est un reportage de Delphine Garneau de France Bleu Normandie.
Anne ne vient pas de loin, elle est havraise et elle ne manque pas une miette du spectacle.
On a fait un petit tour et puis surtout à partir des docks et on a vu le Santa Manuela qui est très beau.
Coup de cœur donc pour le navire portugais qui a plein d'atouts selon elle.
Bah sa largeur, son espace, il est très lumineux et il doit être très agréable à vivre.
Mais Anne n'a pas encore vu le Belém, le navire nantais où la file d'attente s'allonge.
De toute façon c'est un incontournable puisque c'est notre bateau français.
Yveline, carte à la main, il patiente avec deux amis.
On a presque tout vu, sauf un bateau allemand qui est fermé le samedi, c'est un peu dommage. Et il nous reste à voir Lausanne à étoiles, le Belém évidemment, et puis le Standard, voilà.
Christine arrive tout droit d'Alsace, spécialement pour les 500 ans. Elle flâne, appareil photo à la main.
Ça fait rêver, hein ? Faites rien, là, vous avez l'impression d'être parti en voyage. Bien ? Exceptionnel.
Le rêve, la mer et ses histoires, c'est aussi ce qui a poussé Philippe à venir d'Honfleur.
C'est pour les bateaux de Tabarly, les Penduics, là. Même si ça graisse, tout ça, c'est très joli bateau aussi. C'est la plaisance de Tabarly, c'est la mise en route de toute la voile. C'est magnifique.
Magnifique, même quand on se contente de les regarder du quai pour éviter les files d'attente.
Un reportage signé Delphine Garneau. 12h40 sur France Culture, c'est la face cachée du globe. Avec vous, Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Anne. Parmi les événements de la semaine qui n'ont pas forcément fait la une de l'actualité mais qui méritent pourtant d'être mentionnés, on notera la fin d'un face-à-face musclé dans l'Himalaya. Depuis 2 mois, les troupes chinoises et indiennes se faisaient face sur les hauts plateaux à la frontière entre les deux pays, dans un endroit où justement la frontière est mal définie et contestée. C'est la construction d'une route par les Chinois dans la région qui avait motivé l'envoi sur place par New Delhi d'un contingent militaire. Pékin avait répondu en envoyant également ses soldats. L'Inde a finalement décidé lundi de replier ses troupes, mettant fin au face-à-face. En Syrie, on a vu ce mardi la capitale provinciale d'Idlib, la seule encore tenue par les rebelles syriens, passer sous la coupe du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, proche d'Al-Qaïda. Les djihadistes présents dans la cité depuis 2 ans ont investi le conseil municipal qui jusque-là s'autogérait. Et puis à Washington, le grand jury d'un tribunal de la capitale américaine a inculpé un total de 19 personnes, dont 15 fonctionnaires turcs et notamment le principal garde du corps du président Recep Tayyip Erdogan pour violence et voies de fait. Ils avaient violemment attaqué une quinzaine de manifestants pacifiques le 16 mai dernier devant la résidence de l'ambassadeur de Turquie à Washington. La rixe s'était soldée par un bilan de 12 blessés, dont un policier. Le président turc a qualifié cette inculpation de scandaleuse. En Suède, la chef de l'opposition, la conservatrice Anna Kinberg Batra, a jeté l'éponge vendredi 25 août. De plus en plus critiquée au sein de son parti, elle a annoncé qu'elle démissionnait à 1 an des prochaines élections législatives. Nous retrouvons en Suède notre correspondante Anne-Françoise Hiver. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette démission, c'est un nouveau symptôme d'une droite suédoise en complète perte de repères.
En effet, et ça dure depuis plusieurs années, au point même que les éditorialistes du Royaume se demandent si la coalition des conservateurs avec les centristes, les libéraux et les chrétiens démocrates a toujours un sens aujourd'hui. Elle a certes porté ses fruits, permettant à la droite de prendre le pouvoir en 2006, puis de décrocher un second mandat en 2010, sauf que depuis le retour de la gauche au gouvernement il y a 3 ans, les dissensions entre les 4 formations se sont accrues. Anna Kinberg Batra et son parti y sont pour beaucoup, le manque de charisme flagrant de la patronne des conservateurs n'ayant pas arrangé les choses, mais c'est surtout la crise des réfugiés et la montée de l'extrême droite qui l'ont mise en difficulté, avec au sein de son parti des appels croissants en faveur d'un recentrage idéologique sur des valeurs conservatrices, un durcissement de la politique de l'immigration et même un rapprochement avec l'extrême droite et le Parti des démocrates de Suède. Sa main tendue dans leur direction au printemps n'a cependant pas eu l'effet escompté, provoquant une vague de défection des militants vers l'extrême droite, mais aussi le centre et le Parti libéral, deux formations qui se sont toujours montrées inflexibles à l'égard d'une éventuelle collaboration avec la formation nationaliste.
Et pour les démocrates de Suède, c'est-à-dire pour l'extrême droite, c'est donc du pain béni.
En tout cas, ils sont désormais en 2e position dans les sondages, derrière les sociodémocrates, et surtout, ils continuent de jouer les arbitres au Parlement, puisque depuis les élections de 2014, où ils ont obtenu 12,8% des votes, ni la droite ni la gauche n'y disposent de la majorité. C'est d'ailleurs pour les priver de toute influence que 6 partis ont passé un accord historique en décembre 2014, s'engageant pour la durée de 2 mandat à ne pas bloquer, grâce à leur voix, le budget proposé par le gouvernement, une politique du cordon sanitaire qui a fait long feu depuis. Les militants conservateurs et chrétiens démocrates, notamment, n'ayant jamais compris pourquoi leur parti s'abstenait d'exercer une opposition parlementaire, l'extrême droite profitant de la situation pour se présenter comme la seule alternative. Là où le successeur d'Anna Kinberg Batra sera désigné le 1er octobre, avec pour objectif de ramener la droite au pouvoir, mais faudrait-il encore que les centristes et libéraux acceptent une alliance, alors même que la leader du centre, Annie Lööf, personnalité politique préférée des Suédois, apparaît de plus en plus comme la nouvelle chef de file de la droite.
Il était fermé depuis 2014, depuis la prise de contrôle de toute la zone par l'État islamique. L'unique poste frontalier entre la Jordanie et l'Irak a été rouvert mercredi, ce qui pourrait, Nabila Hamel, apporter une bouffée d'oxygène économique aux deux pays.
C'est une artère essentielle et la réouverture de cet axe va certainement faciliter la circulation des personnes et des biens dans les deux sens. On comprend dès lors que la Jordanie comme l'Irak en tireront profit pour peu que l'accès soit efficacement sécurisé. Il y a environ 500 km entre ce poste frontière et Bagdad. Cette route internationale traverse la vaste province majoritairement désertique d'El Anbar, où se trouvent encore quelques dernières poches de l'organisation État islamique. Et comme si elle ne représentait plus un danger, Bagdad, comme Amman, affirme avoir fait le nécessaire pour rendre cette voie sûre et pour la préserver, je cite, « des attaques de bandes criminelles ». Par ce poste frontalier appelé Trébil pour les Irakiens, Karamé pour les Jordaniens, pourront entrer vers l'Irak des produits venus d'Europe, notamment des automobiles, et l'Irak pourra y faire transiter ses produits d'exportation, notamment le pétrole. Les malades irakiens, nombreux à se faire soigner dans les hôpitaux et cliniques jordaniennes, auront désormais la possibilité de s'y rendre par la voie terrestre, ce qui leur sera moins coûteux. Amman, comme Bagdad, espère que la réouverture de cette frontière terrestre constituera une amélioration majeure pour leur économie.
Merci Nabila Hamel et merci à vous Eric Biegala pour cette face cachée du globe à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi, toujours très nuageuse et pluvieuse sur une grande moitié ouest du pays, alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Et les températures de 18 au Havre à 24 à Marseille en passant par 20 à Lille et 21 à Paris.